Cette balado vous est présentée par Banque Nationale. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cette deuxième édition de la balado-diffusion du portrait détaillant de l'ADA. Moi, c'est David Beaulieu qui anime cette chronique avec vous. Aujourd'hui, j'ai le privilège de me trouver à Shawinigan, en Mauricie, où je vais m'entretenir avec Séléna Barry, du IGA Barry, ici à Shawinigan. Donc, bonjour Séléna.
Bonjour.
Merci d'être prêtée au jeu puis d'être avec nous aujourd'hui pour ce portrait détaillant puis d'apprendre à te connaître un petit peu par la même occasion.
Super, ça va être le fun.
Fait que je commence par la question, si on veut, la plus large possible, mais c'est pour vraiment apprendre à te connaître, donc... Est-ce que tu peux te présenter puis présenter ton parcours autant académique que professionnel qui a fait que tu t'es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui?
Parfait. Moi, je suis fille de détaillant. Donc, mon père a toujours eu des magasins là, depuis l'âge de 20 ans. Et mon grand-père avait une petite épicerie de village là, à Sentec. Donc, je dis souvent que je suis née en deux cannes de bine. Donc, j'ai vraiment été élevée dans le domaine. Puis, mes deux oncles aussi là, avaient des épiceries. Donc, j'ai vraiment grandi là-dedans. À partir là, de mon enfance, là, des fois, on allait donner un petit coup de main à l'épicerie, les étés et tout ça. Puis à 13 ans, là, j'ai commencé à travailler au magasin de mon père à Saint-Tite dans le temps. Donc, la première année qu'on a commencé à ouvrir les dimanches, ça a été mon premier emploi. Je travaillais tous les dimanches, je faisais les changements de prix. Dans le temps qu'il fallait enlever les étiquettes de prix puis en remettre des nouvelles.
Dans le fond, tu n'as pas eu la chance de connaître les dimanches fermés avant la COVID.
Non, c'est ça. J'ai jamais connu ça dans ma carrière. Donc, c'est ça. Puis, fait que j'ai commencé comme ça, comme commis d'épicerie, emballeur. Ensuite, là, je travaillais à peu près dans tous les départements du magasin comme bonne fille d'épicier. Donc, tout mon secondaire, là, j'ai travaillé au magasin les soirs, les fins de semaine et tout ça. Et puis, est arrivé le cégep. Donc là, je suis partie étudier. Moi, j'ai fait un DEC en tourisme. Okay. Je suis allée m'exiler à Matane.
Donc, belle expérience de vie.
Oui, tout à fait. J'avais de la famille là-bas, puis c'était un domaine qui m'intéressait, donc je suis allée faire un 3 ans de cégep là-bas. Quand j'ai eu terminé mon cours, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Donc là, j'étais commande 2. Je suis retournée travailler au magasin de Saint-Tite comme chef caissière, donc j'ai fait ça pendant 1 an. Puis là, ensuite, j'ai décidé d'aller à l'université. Donc, je suis partie à l'université à Montréal, à l'UQAM. J'ai fait un bac en administration, tourisme, hôtellerie. OK. Donc, à Montréal, là, j'ai travaillé tout le long de mes études dans l'hôtellerie. J'ai travaillé dans des réceptions d'hôtels et tout ça. Donc là, j'ai fait mon bac en 4 ans, parce que là, je travaillais 25-30 heures par semaine. Ouais. Donc, j'ai fait un choix. Et puis là, quand j'ai eu terminé mon cours, j'ai travaillé dans mon domaine. Donc, j'ai travaillé... En sortant de l'école, là, je me suis fait embaucher au Ritz-Carlton à Montréal comme directrice adjointe de la réception. Donc là, j'ai été là 1 an. Mm-hmm. Et puis là, c'est cette année-là que mon père a acheté le magasin ici à Shawinigan. Puis là, j'ai vu une opportunité parce que dans l'hôtellerie, je travaillais vraiment beaucoup. Là. C'était beaucoup les soirs, les fins de semaine. Je comptais pas mes heures. Je passais toutes mes fins de semaine à l'hôtel et tout ça. Puis c'est un domaine qui n'est pas nécessairement facile, l'hôtellerie non plus. Mm-hmm. Donc là, j'ai vu une opportunité de mettre ces énergies puis ce temps-là sur une entreprise qui pourrait peut-être éventuellement m'appartenir. Donc là, c'est là que j'ai signifié mon intérêt à mon père de revenir dans l'entreprise familiale. Puis c'était important pour moi, tu sais, d'aller prendre de l'expérience ailleurs aussi. Tout le background que j'étais allée chercher en gestion, tout ça, dans d'autres domaines, avoir d'autres patrons que son père, tout ça, pour moi, c'était super important. Donc, quand je suis revenue, le magasinet venait d'ouvrir, donc l'équipe ne me connaissait pas. Fait que ça, c'était un avantage, parce que des fois, comme fille ou fils de marchand, bien... Des fois, les gérants et les employés nous ont vu grandir. Donc, des fois, au niveau de la crédibilité, des fois, c'est difficile. Tu sais, quand ils nous ont vus à nos balbutiements, là, des fois, c'est de tomber plus bas, entre guillemets. Des fois, ça cause des enjeux. Donc là, moi, je revenais dans une nouvelle équipe avec une nouvelle approche. J'avais travaillé ailleurs, j'avais de l'expérience en gestion. tout ça. Donc, ça a été vraiment bénéfique pour moi, pour mon intégration dans l'équipe, puis prendre ma place graduellement. Donc, la première année, j'étais en charge seulement des ressources humaines. C'était une nouvelle entreprise, fait que tout était à mettre en place. Donc, ma première année, j'ai fait que des ressources humaines, tout mettre en place. Puis là, on disait à l'équipe, bien, j'étais là pour les appuyer puis les aider. J'étais pas là pour les gérer. Donc, ça l'a aidé, ça aussi, là, à m'intégrer puis à leur montrer ce que j'étais capable de faire. Puis là, graduellement, là, j'ai pris de plus en plus de place dans l'entreprise. Puis là, on a fait le processus de relève, là, qui a duré plus de 10 ans, là, avant que je rachète le magasin il y a 2 ans.
En 2020, pendant la pandémie?
Juste avant la pandémie.
Mon Dieu, le timing.
Oui, mais ça faisait quand même longtemps là, qu'on était dans le processus et tout ça. Là, fait que c'était pas une décision sur un coup de tête. Là. Le processus était bien en place. Puis nous, ce qui est arrivé aussi, c'est que tout le processus était en place. On avait un plan vraiment là, bien fait, avec des dates et tout ça. Puis on avait monté quelqu'un dans l'entreprise avec moi dans le bureau pour venir m'appuyer, un directeur, puis tout le plan de match était en place, puis malheureusement, cette personne-là est décédée.
Ah non!
Ouais, du jour au lendemain, là, il est arrivé un accident bête, puis il est décédé, lui puis sa conjointe. Donc là, c'est sûr que ça a été tout un branle-bas de combat dans l'entreprise, là, parce que là, il a fallu annoncer la nouvelle aux employés. Lui et sa conjointe géraient deux de nos trois dépanneurs aussi. Donc là, il a fallu tout mettre ça en place, ce qui a fait que mon père est revenu dans l'entreprise pour venir m'aider aussi. Donc là, ça a retardé le processus d'achat là, d'un bon 2 ans, parce que là, il a fallu que mon père revienne, le temps qu'on remette les choses en place, qu'on retrouve quelqu'un pour monter avec moi et tout ça. Là, fait que ça a été toute une épreuve dans l'entreprise, un bon tremblement de terre.
Oui, c'est sûr, c'est aussi un choc.
Oui, bien, tu sais, là, c'est de gérer la peine aussi, ouais. De gérer les employés, d'essayer de rester fort puis solide pour l'équipe, puis de tenir tout ça en place. Donc, ça a été toute une épreuve. Puis là, ben là, suite à ça, là, ça a pris pratiquement un an là, avant qu'on embauche quelqu'un là, réellement pour le remplacer, parce qu'on se sentait comme pas prêt là, à remplacer normal. Cette personne-là. Puis là, ben là, finalement, là, je me suis remontée une équipe tranquillement. Puis là, on a fait la transaction et la pandémie est arrivée.
C'est vraiment les timings, non?
Oui, c'est ça.
Ben, au moins, en ayant fait de l'hôtellerie en ce moment, on pense aussi à nos pendants de l'hôtellerie. Eux, ils n'ont pas eu ça facile. Donc, pas dire que c'est un bon move pour toi, mais...
Mais moi, je disais, on est dans le bon domaine, là, on va se le dire. Là. Il y a des entreprises. C'est oui, on a vécu des difficultés puis des épreuves. Puis il a fallu se virer sur un discerne, comme on dit, là, parce que là, il fallait se dépêcher, les mesures. Puis là, tout changeait à la journée. Là, je me souviens des premières journées, là, on écoutait les web avec la bannière. Puis on se tenait quasiment près de notre chaise, là, dire « Hey, boy, il faut mettre tout ça en place ça, pour demain. » là. Donc, ça a été quand même, ça a été des bons défis. Mais moi, je me dis toujours, je faisais la blague dans la pandémie parce que je venais travailler le matin, puis tu sais, c'était des heures sur la route. Là, puis là, je disais, hey, je pense qu'il y aurait une invasion de zombies, puis on serait les derniers humains sur la Terre à travailler avec les infirmières puis les médecins, là, tu sais.
Pratiquement.
Fait qu'on est vraiment dans le bon domaine pour ça, tu sais. On n'a pas eu de d'instabilité au niveau des revenus, au contraire, là, tu sais. Ça a été bon pour la business, on va se le dire, malgré tous les défis, ben moi, je trouve qu'on est dans le bon domaine. Là, j'ai des domaines qui sont des amis qui sont dans le domaine de la restauration ou dans les vêtements. Quand on se compare, on se console. Là, ouais. Je me dis au moins, nous, les revenus rentrent. Puis, tu sais, on n'est pas toujours à se demander si on va mettre la clé dans la porte. Là.
Depuis combien de temps vous travaillez pour l'entreprise? Mais est-ce que ça a toujours été un IGA aussi, également?
Non, ben en fait, moi quand j'ai rentré dans l'entreprise, mon père, la bannière c'était Provigo, c'était un Intermarché. Puis là, par la suite, là, plusieurs années plus tard, là, on est allé avec la bannière Sobeys, puis depuis ce temps-là, là, on est mordu Sobeys. Donc, ouais, c'est ça. Mais comme je l'expliquais tantôt, là, j'ai commencé à 13 ans, mais moi, j'ai été on and off dans l'entreprise. Ouais. Là, j'ai travaillé dans ma jeunesse, je suis repartie étudier, je suis revenue, je suis repartie. Mais tu sais, moi, mon père, il nous a jamais mis la pression de savoir si ça nous intéressait ou s'il y avait de la relève ou tout ça. Tu sais, il nous disait, ben faites vos affaires, dans quoi vous avez le goût d'étudier, dans quoi vous avez le goût de travailler, puis go, allez-y, tu sais. Puis je pense qu'il se disait, ben si cela arrive à l'arrivée, ça va arriver, mais il nous mettait pas la pression, tu sais. Il nous a jamais posé la question, hey, penses-tu un jour peut-être prendre la relève? Puis moi, au départ, il n'y en était même pas question, là, tu sais, jamais j'aurais pu penser, là, à 15, 16, 17 ans, qu'un jour, je prendrais la relève de l'entreprise, là, c'était même pas dans mes plans, je m'en allais pas du tout dans ce domaine-là, là, tu sais, mais des fois, la vie fait les choses, tu sais.
Dans le fond, ben le fait de je pense que c'est pour lui aussi, de vous laisser aller battre de vos ailes, puis faire vos expériences, puis tu vois, ben aussi, indirectement, même si c'était on and off avec les études, je veux pas, il y avait quand même un point d'ancrage. J'allais étudier, on revenait, oh, on avait un petit peu d'entreprise. Puis, ouais. Est-ce qu'il y avait un département quand tu étais plus dans la jeunesse, là, au début, qui t'affectionnait particulièrement? Ben, t'as donné peut-être une petite, avant une petite piqueur comme, ah, oh, peut-être que...
Ben, moi, j'aimais beaucoup, tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans l'épicerie, là, comme commis d'épicerie, emballeur et tout ça, puis j'ai fait beaucoup de caisses. Fait que c'était vraiment, c'était surtout ça, là, mon champ d'expertise, le service à la clientèle et tout ça. Quand j'ai fait mon année comme chef caisseur, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, de gérer une équipe, puis de, tu sais, la communication avec l'équipe, puis les amener à travailler avec nous autres et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, tu sais, j'ai travaillé dans des domaines de service à la clientèle beaucoup, là. Tu sais, l'hôtellerie, la restauration, c'est du service à la clientèle pratiquement pur, là, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis, avec les années, avec l'expérience dans l'hôtellerie, tu sais, à gérer des conventions collectives, à gérer des équipes de travail, là, j'en suis venue à vraiment beaucoup aimer les ressources humaines. Puis, c'est devenu vraiment mon dada, les ressources humaines. Puis, quand je suis arrivée ici... Ça a été, t'sais, c'était pile mon champ d'expertise. J'étais vraiment sur mon X en faisant de la gestion des ressources humaines. Puis ça a toujours été mon cheval de bataille, puis ça l'est encore aujourd'hui. J'ai essayé d'embaucher des gens pour déléguer les ressources humaines pour que je m'occupe plus des opérations. Puis il a fallu que je me mette que je me rende à l'évidence que c'est moi qui fallait que s'en occupe. Oui, c'est vraiment, c'est mon expertise. C'est là-dedans que je suis bonne. J'aime ça, faire ça. Puis, je trouve que ça donne, c'est ça qui donne la couleur à l'entreprise, les ressources humaines, puis la façon qu'on gère les humains, puis les employés. Puis, des fois, on prend des décisions comme propriétaire qu'un commis aux ressources humaines ne pourrait pas prendre. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, tellement que j'ai embauché des gens pour s'occuper de l'opération, pour que moi, je continue à m'occuper vraiment plus des ressources humaines. Fait que mon champ d'expertise, c'est vraiment ça, puis je m'occupe de l'administration, les projets, puis tout ça. Mais l'opération quotidienne, j'ai un directeur puis un directeur adjoint maintenant qui sépare là, l'opération du plancher. Puis moi, mon expertise est vraiment dans les ressources humaines.
Sur les ressources humaines. Bien, en plus, ça fait du sens dans le sens où, en étant proche des gens, je le sens, on discute en ce moment, oui, dans la même pièce pour tout le monde qui se le demande, mais on respecte les protocoles COVID. mais ça fait du sens d'aimer les gens, les services à la clientèle, puis ça fait du sens aussi dans les études, à l'hôtellerie. Puis je pense qu'en faisant aussi quelque chose qu'on aime, qui parle des ressources humaines, ben ça simplifie ou ça rend encore plus agréable le reste de partir dans les opérations et tout. Puis ça paraît naturellement dans une entreprise.
Ouais, tout à fait.
Puis là, ça peut être un peu plus atypique parce que c'était pas ça à 15-16 ans de partir dans l'alimentation. Mais
non.
Après avoir fait les études, aller à Montréal, qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Qui t'a dit, ah, peut-être que c'était les ressources humaines au final dans l'ouverture à Shawinigan ou...
Ben, moi, je dirais que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours eu un côté boss, là. Dans tous les jobs que j'allais, même quand j'étais syndiquée, même quand j'étais simple commis de base, j'avais toujours une vision qui était différente des autres employés parce que moi, j'ai été élevée par des boss, là,
ouais.
Fait que c'est sûr que je voyais pas ça de la même façon, puis je m'impliquais pas de la même façon dans mes emplois non plus. Tu sais, j'étais toujours celle qui arrivait un peu plus de bonne heure parce que je savais qu'il y avait un groupe qui allait arriver la journée même, puis que là, tu sais, il serait dans le jus, puis qu'il restait un peu plus tard, puis qu'il comptait pas ses heures, puis que, tu sais, il disait « Oui, mais, tu sais, les patrons, ils ont pris cette décision-là, mais avez-vous pensé que peut-être qu'il y a ça, tu sais? » Puis j'essayais toujours de faire l'avocat du diable, entre guillemets, tu sais, quand les employés chialaient contre les décisions des patrons. J'essayais toujours de comprendre pourquoi ils avaient pu prendre cette décision-là, puis que, tu sais, souvent, les employés ne comprennent pas parce qu'il leur manque une grosse partie de l'information, tu sais, pour juger des décisions que les patrons prennent. Fait que moi, j'avais toujours cette vision-là, tu sais, de... Puis à force de faire autant d'heures puis de pas compter, puis là, un moment donné, ah, c'est pas grave, je vais te remplacer en fin de semaine, puis ah, c'est pas grave. Puis là, un moment donné, je me disais, tu sais, dans le fond, je serais capable de le faire pour moi, là, tu sais, je voyais l'opportunité en avant de moi de dire, hey, tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir une entreprise, tu sais, puis d'avoir ce push-là dans la famille, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui sont entrepreneurs dans l'âme, mais qui n'ont pas les outils nécessaires pour acheter une business mm-hmm. ou pour se rendre là. Moi, je l'avais l'opportunité, puis je pense que c'était dans moi, tu sais, dans ma personnalité, tu sais, d'être gestionnaire, puis d'être leader dans une entreprise. C'était vraiment dans ma nature.
Puis, on le disait tantôt, là, on a parlé un petit peu de répartition des rôles avec les ressources humaines, le dada, de ton côté, avec de l'aide, avec les directeurs, mais ton père, maintenant, il est retraité, j'imagine.
Oui, tout
mais est-ce
à fait.
Qu'il quand même... Tu sais, quand tu as des petites questions, quelque chose, il est quand même présent pour t'épauler.
Oui, tout à fait. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que moi, j'ai plein d'amis là, qui ont été en relève d'entreprise familiale et tout ça. Puis la plus grande difficulté, tu sais, dans un processus de relève, souvent, c'est que le cédant ne veut pas se tasser.
Ouais.
Puis là, le releveur veut prendre sa place. Puis là, ben c'est toujours là où il y a des conflits parce que là, le jeune, il pousse, lui, il veut montrer qu'il est capable puis il veut prendre le lead. Puis là, le cédant ne veut pas trop se tasser puis il ne veut pas trop laisser de place. Puis ça, c'est vraiment la difficulté parce que souvent, ils finissent par se tasser, mais là, quand on leur pose une question et que c'est pas long qu'ils rentrent les deux pieds dedans, puis que là, ils prennent le plancher, puis que, tu sais, c'est dans eux autres, puis souvent, c'est leur bébé. Fait que, ils ont de la difficulté à avoir le rôle de mentor souvent, détaché. Nous, on a, avec les années, là, puis avec les discussions, puis avec l'expérience et tout ça, puis... C'est nono, mais la COVID nous a aidés dans le sens où moi, j'ai acheté l'entreprise, puis là, bien, pas longtemps après, la COVID est arrivée, puis mes parents, ils ont pris la décision de vraiment se retirer, puis d'être très prudents, parce que ma mère, elle n'a pas une santé à tout casser, puis ils étaient très inquiets de la COVID, de tout ça. Donc, mon père n'a pas mis les pieds dans l'entreprise beaucoup dans les premiers mois de la COVID. On se parlait au téléphone, je le tenais au courant, mais pas trop, parce que je sentais que ça l'inquiétait beaucoup. Fait qu'il y a comme une coupure qui s'est faite à cause de ça. Puis là, quand il est revenu dans l'entreprise, ben là, tu sais, la coupure était comme faite, là. Il s'était comme détaché, puis là, on dirait que là, ça l'a aidé dans son processus de prendre sa retraite puis se détacher de l'entreprise. Donc là, on en est venu à une étape où... On est capable de discuter, tu sais, dernièrement, là, il est venu me rencontrer, on a regardé les états financiers ensemble, puis là, il me posait des questions, il me challengeait ses états financiers, puis avant, là, tu sais, je me serais sentie comme attaquée, oh mon Dieu, il essaye de me prendre en défaut, que j'ai pas fait ci, puis que j'ai pas fait ça, tu sais, des fois, c'est ça qui est difficile aussi, tu sais, parce qu'il y a un lien d'attachement fort, c'est notre père, on veut lui montrer qu'on est bon, et tout ça, puis là, on en est vraiment venu à une étape de notre processus où on est capable de discuter, de se challenger, je suis capable de l'appeler puis de poser des questions, puis il va me donner son avis, il va me dire qu'est-ce que lui en pense, mais à la suite de ça, tu sais, ça m'appartient la décision. Fait qu'on est vraiment venu à cette étape-là de dire, OK, là, mon père, puis c'était mon rêve dans le fond, parce que c'est pas tout le monde qui est capable, souvent comme leader d'entreprise, comme propriétaire d'entreprise, on est tout seul au sommet, hein. On a des difficultés, on a des enjeux, tout ça, puis souvent quand on se retourne, bien, il y a plus personne derrière nous, tu sais. Mais là, moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un en arrière de moi qui est capable de me backer puis que je suis capable de poser des questions, de dire « Hey, j'ai telle affaire, là, qu'est-ce que t'en penses de ça? » Puis il est capable de me donner son opinion, mais sans trop s'ingérer dans le day-to-day de la business. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça.
Puis en plus, ben le quelques mois de... Même si le contexte n'est pas le fun avec la COVID,
mais
ça le permet aussi de prendre ton pied, de
un
peu voler de tes propres ailes. On va reprendre souvent cette expression-là, mais...
Oui, vraiment. Ben, tu sais, on a comme pas eu le choix, là. Il a fallu comme. Mais, tu sais, honnêtement, la bagnard nous a énormément aidés, là. Parce que, tu sais, si ça n'avait pas été de la bagnard, il y a des journaux, ça serait vraiment demandé quoi faire, là. Tu sais, on a vraiment bien été épaulés par la bagnard, là. Tu sais, tous les jours, on avait des meetings, puis ils nous disaient, là, OK, là, il faudrait que vous fassiez ça, mettez ça en place et tout ça, tu sais. Des fois, c'était étourdissant, à la limite, mais. Au moins, tu sais, on était épaulés, on n'était pas laissés à nous autres mêmes dans ce processus-là parce que c'était vraiment, tu sais, c'est... Puis, tu sais, souvent, quand on est en relève d'entreprise, tu sais, on se fait toujours dire « Ah, ouais, mais tu sais, moi, j'ai bien plus d'expérience que toi, tu sais. Ah, oui, mais tu sais, l'expérience revient souvent, là, tu sais, comme quoi que, ben tu sais, veux pas, je rattraperai jamais cette expérience-là, tu sais, il y a comme 30 ans de business.
C'est sûr.
C'est impossible. Mais là, c'était de l'inconnu. Personne n'avait vécu ça, tu sais. Fait que cette expérience-là que le sédant avait acquis, ben là, il servait pas à grand-chose dans les premiers mois de la pandémie parce que c'était quelque chose... On savait pas personne, tu sais. Personne n'avait vécu ça, fait que...
On écrivait le manuel en le vivant.
En le vivant, on écrivait le manuel. Fait que ça a été vraiment un formateur aussi, tu sais, de dire, ben on peut pas se fier sur l'expérience de personne là, dans ce domaine-là. Là. On peut pas dire, ben oui, ben moi, je l'ai déjà vécu, ça. Là, fais ça de même, mais non, tu sais.
Ben, il aurait fallu que le sédent soit là en 1918. Puis peut-être que, mais là, ça fait...
Puis encore, tu sais, c'était pas tout à fait pareil non plus à cette époque-là, tu sais. Fait que, ouais.
Exactement. Puis toi aussi, t'as des enfants.
Oui.
Puis je sais qu'ils sont encore en bas âge, mais est-ce qu'à quelque part dans toi, t'es comme, je veux pas mettre de pression, mais ça te ferait plaisir... dans bien des années d'ici, de peut-être avoir une autre relève et continuer la relève familiale.
Mais tu sais, c'est sûr qu'on a tout un peu... tu sais, quand on a notre business, tu sais, on voudrait que ça perdure, puis on voudrait que ça reste dans la famille, puis tout ça, tu sais. Et c'est sûr que moi, là, mes enfants sont encore jeunes, là, ils ont 6 puis 8 ans, fait que là, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire de leur vie, tu sais, j'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que, tu sais, dans l'idéal, tu sais, on aimerait ça, tu sais, trouver de la relève, puis que ça reste dans la famille, mais tu sais, des fois, il y a des relèves de l'extérieur aussi qui peuvent arriver, puis il y a des possibilités comme ça aussi, mais... T'sais, dans 20 ans, il va se passer quoi avec l'industrie? T'sais? On va être où? Ça change tellement vite dans les dernières années. Là l'apparition des caisses libre-service, on est rendu avec des applications là, dans des certains magasins qui n'ont même plus besoin de passer aux caisses. T'sais. Je regarde le petit magasin que mon grand-père avait, puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est deux mondes complètement. Fait que, dans 20, dans 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? T'sais, on n'en a aucune idée, là.
Quelle est la marque de fabrique, l'identité des commerces Barry?
Bien, moi, je pense que c'est vraiment notre style de gestion qui est très familial encore. T'sais, moi, je me souviens dans l'épicerie de mon père à Saint-Tite, là, t'sais, tout le monde, on s'amusait en travaillant. Là, t'sais, il y avait des coups plates qui se faisaient. Puis, t'sais, cet esprit de famille-là où ce que tout le monde se connaissait, puis tout le monde s'épaulait et tout ça, t'sais. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de garder puis de perdurer dans le temps, tu sais. Puis dans une industrie comme la nôtre, souvent, là, on travaille en silo. Tu sais, chaque département, là, c'est comme si c'était 8 PME, là, souvent.
Ouais.
Bien, dans les dernières années, nous, on a travaillé vraiment beaucoup à effacer les lignes à terre, tu sais. Est-ce que les départements s'entraillent entre eux puis que tout le monde travaille pour le magasin de la famille Barry, que ça soit pas juste « Ah, ben moi, je travaille dans les fruits et légumes. Ah, moi, je travaille dans l'épicerie. » Non, je travaille pour le magasin de la famille Barry. Puis ça, cet esprit de famille, puis d'entraide-là, tu sais, puis de camaraderie, puis l'ambiance de travail, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment ça qui nous démarque, tu sais, puis qui fait vraiment notre essence, là. Au niveau de l'entreprise.
Puis je pense aussi dans une industrie comme celle-ci, où est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants, on s'y entend, c'est aussi formateur pour créer, parce que vous êtes en fait les entreprises comme les détaillants, vous êtes les premiers formateurs de l'avenir professionnel de ces étudiants-là, puis ça crée des bonnes bases solides, d'avoir développé une éthique de travail, puis tant mieux pour eux, en plus ça fait des bonnes expériences, puis ils s'en souviennent toute leur vie. Comment est-ce que la COVID a changé la façon de faire, ou plutôt d'opérer un commerce d'alimentation? On a un petit peu touché un peu plus tôt, mais la COVID a quand même changé beaucoup de choses, aussi remis beaucoup de choses en perspective. Je pense que les gens, pas nécessairement qu'ils prenaient pour acquis là, le commerce alimentaire, peut-être aussi, c'est faire l'épicerie, c'est une tâche quotidienne, qui n'est peut-être pas le jour la plus fun pour certains, mais qu'on a vu l'importance des détaillants alimentaires depuis la COVID. Comment est-ce que les opérations ont changé puis qu'on s'est adapté en les deux dernières années dans le commerce alimentaire?
Bien, moi, je pense que ce qui a le plus changé, c'est la perception des gens face à leurs marchands, face à leurs détaillants, face à leur épicerie du coin. Parce que malheureusement, c'est encore un travail, tu sais, comme une épicerie, caissière, emballeur, tu sais, c'est pas... c'est pas des travails qui sont mis de l'avant, tu sais, c'est pas quelque chose que, tu sais, il y a pas d'études pour s'en aller là-dedans, fait que c'est pas, souvent les gens se retrouvent dans ce domaine-là un peu par le chemin les amène là, tu sais, puis on a des super talents, puis on a des gens exceptionnels dans nos magasins, mais tu sais, souvent c'est un peu c'est arrivé un peu comme par, c'est le fruit du hasard souvent qui se retrouve là, tu sais, puis je trouve que les gens voient plus cette industrie-là, ces travails-là de la même façon. Là, tu sais, on est devenus, là, ils arrêtaient pas de nous dire qu'on était des héros, puis qu'on était des nécessaires, puis que tout ça, tu sais, fait que je pense que ça a changé beaucoup la perspective au niveau de la population, puis on essaie de montrer à nos gens aussi comme de la façon qu'ils voient leur travail aussi. Tu sais, comme quoi que c'est important ce qu'ils font, tu sais. Puis c'était tout, c'est drôle parce que là, il manquait de main-d'œuvre partout. Puis tu sais, souvent des tâches comme vider les poubelles. Bon, on dit, hey, c'est une tâche plate, puis personne ne veut faire ça, puis c'est donc bien pas important de vider les poubelles. Mais moi, ça m'a marqué cet été. J'allais dans des restaurants, dans des villes, puis là, je voyais les poubelles qui débordaient dehors, tu sais, puis des toilettes pas lavées. Puis là, je disais, mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est important, ces tâches-là, tu sais. Le gars qui passe le balai, là, ben s'il passe pas le balai, ton commerce, il a de l'air sale, tu sais. Puis s'il vide pas la poubelle, ben t'as de l'air à l'envers. Puis, fait que, de remettre en perspective cette vision-là de leur travail, à quel point il est important leur travail. T'sais, on nourrit les gens, puis c'est important qu'ils soient là. Puis des fois, le sourire de la caissière va changer la journée d'un client. Puis ça, cette vision-là de leur emploi, puis de ce qu'ils ont à faire, puis pourquoi ils viennent travailler le matin, puis de la façon que les clients perçoivent aussi le travail dans le domaine de l'alimentation, ça, je trouve qu'il y a une vision qui a changé un peu. Il y a encore du travail à faire, là. Mais ça l'a aidé beaucoup, je trouve. Puis c'est sûr que, tu sais, les normes sanitaires, là, je cacherai pas que, tu sais, il y a un bout, c'était lourd, là, tu sais. Ouais. Dans le début de la pandémie, c'était stressant de venir travailler. Moi, je disais, bye-bye, tu sais, quand c'est rendu que la caissière a l'impression de mettre sa vie en danger pour venir passer des commandes des clients, là, je me disais, bye-bye, on est ailleurs, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, tu sais, on a vécu des stress, puis là, tu sais, toutes les normes de salubrité ont pris encore plus d'ampleur qu'avant, tu sais, puis on faisait des blagues, là, les sacs de fruits, là, que les clients, ils se lichaient toujours les doigts pour les ouvrir, bien là, c'est rendu un enjeu, parce que plus personne n'est capable d'ouvrir ça, les mosus de sacs de fruits, parce que personne n'ose se licher les doigts, tu sais. Mais ouais, tu sais, toutes les normes sanitaires, tout le service à la clientèle, tu sais, des fois, là, les personnes âgées, c'était la seule sortie qu'ils faisaient de leur semaine, là. Fait que le service à la clientèle a pris une ampleur encore plus importante parce que souvent, c'est les seuls gens qui croisaient dans toute leur semaine, tu sais. Ouais. Fait que ça, moi, je trouve que c'est la vision de cet emploi-là a beaucoup changé avec la COVID.
Puis je pense aussi, le monde voit pas aussi toujours, c'est sûr, comme on disait tantôt, les... C'est caissière commis, mais il y a quand même aussi une expertise qui se crée, que ce soit dans la rotation des produits, oui. Pour pas que les gens justement se lancent avec un lait périmé, parce qu'il faut faire la rotation pour ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, mais c'est correct. Puis je pense que ça boucle aussi très bien la boucle de l'entrevue, côté humaniste. On voit les ressources humaines, la relation humaine est au cœur de ton expérience, mais aussi de l'entreprise. Puis... ça fait vraiment plaisir d'avoir passé cette entrevue-là avec toi aujourd'hui, Selena. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous.
Et merci à toi.
Puis je vous invite aussi à lire l'entrevue papier lorsqu'elle va sortir dans le radar prochainement. Super. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Merci à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Suivez-nous sur les différentes plateformes sociales et on se dit à la prochaine pour une nouvelle balado de l'ADA. Nous tenons à remercier de nouveau notre partenaire de diffusion, Banque Nationale.